l'Amphidamicus. Aujourd'hui, Maître Christian Huglot, cofondateur du cabinet Huglot-Lepage, avocat spécialiste des questions relatives au droit de l'environnement, nous présente les grands fondements du droit de l'environnement. Troisième épisode, du droit de l'environnement au droit à l'environnement.
Alors nous avons vu que dans les précédents échanges d'émissions, que le droit de l'environnement est né par la prise de conscience de la réparation des dommages causés à l'environnement, à la planète, si vous voulez, on verra ça plus en détail. On a vu aussi que le législateur, les institutions européennes, même internationales, sont préoccupées d'offrir un code et une démarche à suivre pour, j'aime pas ce terme-là, mais il est clair, c'est renforcer le droit de l'environnement. Hein, le droit, qu'est-ce que c'est? C'est le risque de contrainte, c'est important. C'est ni la morale, ni l'éthique. Le droit, c'est la puissance publique qui peut intervenir. Et la dernière chose, dans l'évolution du droit de l'environnement, on s'est dit, mais c'est formidable, on protège tout ça, les éléments, mais l'homme dans tout ça. À quoi ça sert de protéger l'environnement si l'homme n'est pas protégé? La finalité du droit de l'environnement, c'est de protéger l'homme dans ce qu'on peut appeler dans la création, au sens large du terme, et dans la nature, si vous préférez. Et donc, tout ça est né, encore une fois, c'est quand même intéressant de voir que les grandes évolutions du droit de l'environnement sont liées à la société civile. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans différents arrêts, va dire « Mais c'est vrai que le mot environnement n'existe pas dans la Convention de Paris de 1948. » Vous savez ce que c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très important. Il y a 44 États qui adhèrent, hein, n'est-ce pas? Il y a des recours individuels. C'est une protection absolument exemplaire des droits fondamentaux de la personne humaine. Il lui manquait les droits de l'environnement. Puis la Cour est intelligente, elle a dit « Mais quand on protège la vie privée, ça veut dire qu'on protège contre les intrusions de la vie privée, la pollution, les nuisances. Et donc, je considère que le droit de l'environnement se trouve dans cette partie-là. Et d'autre part aussi, quand je regarde le droit à la vie, qui est prévu par la Convention de 48, la Convention de Paris, je considère que l'environnement s'y rattache. Et différentes décisions, on ne va pas aller dans le détail, se sont appuyées là-dessus. Il y a une affaire qu'on appelle l'affaire Lopez-Ostra. C'était quelqu'un qui était victime de nuisances. La Cour européenne a dit « la juridiction espagnole a mal réparé ». Moi, je dis qu'il faut réparer comme ça. Une autre affaire très intéressante aussi, ce sont des femmes qui se sont liguées entre elles parce qu'on leur refusait de donner des informations sur les émanations toxiques d'une usine chimique et qui risquaient d'avoir des effets sur la grossesse. Eh bien, comme ils n'ont pas eu satisfaction en Italie, la Cour leur a donné raison. Donc, le droit, on s'est aperçu, si j'ose dire, que l'environnement était partout, y compris dans l'homme aussi, au passage. Et alors, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et quand Corinne Lepage a fait sa loi sur l'air, elle a pris cette dimension, effectivement, du droit à un environnement sain, un droit qui ne nuise pas à la santé. C'est l'article 1er de la loi du 30 décembre 1996, et elle a obligé... Quand j'ai parlé très souvent de l'étude d'impact, c'est-à-dire l'obligation de faire une étude préalable avant de prendre un projet, elle a obligé que les auteurs d'études d'impact et que l'administration se préoccupent des effets sur la santé d'un projet. Par exemple, vous avez une ligne de TGV, eh bien, il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que les forêts, il n'y a pas que l'eau, il y a le bruit pour les riverains. Est-ce que ça va perturber les communications électriques? Est-ce que les communications électriques peuvent avoir des effets sur la santé, etc. Donc il y a une extension du droit de l'environnement vers le droit de la santé. Ce qui est très curieux, c'est que les grandes lois sur la santé qui sont récentes de 2015, et le professeur Béatrice Parent a fait beaucoup d'articles là-dessus, le droit de la santé a du mal, lui, à intégrer de l'environnement. Et le mouvement se fait du droit de l'environnement vers le droit de la santé. Et on va voir dans quelques instants que c'est quelque chose qui va être, si j'ose dire, couronné par la Constitution.
Extrait de Soir 3, journal télévisé de France 3, édition nationale du 25 mai 2004.
La charte de l'environnement voulue par Jacques Chirac est en discussion à l'Assemblée. Le débat a commencé en milieu d'après-midi. Le texte divise la majorité. Pomme de discorde, le principe de précaution qui serait inscrit dans la Constitution. Stéphane Grand, Marc Dana.
C'est son jour de gloire en quelque sorte. L'ancienne conseillère de Jacques Chirac pour les questions d'environnement présente fort logiquement cette charte voulue par le président de la République. un projet de loi constitutionnel en 10 articles, qui prévoit notamment que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. Autre point essentiel, l'article 5 qui reconnaît le principe de précaution.
Alors voilà quelque chose d'extrêmement intéressant et novateur. Vous avez remarqué, comme moi, que les droits de la santé, les droits de l'environnement sont liés à l'article 1er. On vous l'a lu tout à l'heure, c'est clair. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. C'est très important. Seulement, il y a un deuxième article qu'on ne cite pas beaucoup. Moi, il m'est très cher, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation, à l'amélioration de l'environnement. C'est-à-dire que vous avez des droits d'un côté, des droits d'un côté et des devoirs de l'autre, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Mais ce qui est... Il y a deux choses à dire à propos de la Constitution. D'abord, cette idée de la prévention, de la précaution qui a été clairement expliquée, qui est importante, qui est innovatrice, c'est le principe pollueur-payeur qu'on retrouve. On retrouve aussi les grands principes d'information et de participation. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'est pas terrible sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la Constitution n'a pas fait beaucoup varier la primauté du droit constitutionnel à l'environnement. Je veux dire qu'il y avait déjà des décisions avant, et que le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction politique, à peu de choses près. Ce n'est pas une véritable juridiction juridique au sens propre du terme, puisque c'est composé d'anciens hommes politiques pour la plupart du temps. Et malheureusement, on ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel a complètement développé un droit fondamental à l'environnement. Ce qui est important, c'est que, vous avez vu le parcours, on part de la jurisprudence, on va vers la loi et on monte vers la loi suprême. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est très rassurant dans notre avenir, c'est sur 192 États sur la planète, il y en a 145 qui ont du droit constitutionnel à l'environnement. Ça, c'est un bon signe, parce que c'est le droit supérieur. Alors, on pouvait espérer que le droit de l'environnement se développe beaucoup plus grâce à une technique, la technique de la QPC. Alors, vous savez ce que c'est que la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Vous êtes devant un tribunal, puis vous dites, mais la loi qu'on m'applique, elle n'est pas constitutionnelle, elle ne ressemble pas, elle n'applique pas les principes de la charte. J'ai travaillé le sujet pendant un certain temps. Depuis cette installation de la QPC, il y a une petite dizaine d'années, il n'y a pas beaucoup de décisions, il y en a une trentaine, une quarantaine. Il n'y a pas beaucoup de grands arrêts. Sauf il y a un arrêt qui est très intéressant, qui est du 8 avril 2011, qui s'appelle Sieur Z. Ça, c'est comme ça que ça se prononce, n'est-ce pas? Mais vous le trouvez au recueil des arrêts du Conseil constitutionnel, dans lequel le Conseil constitutionnel a inventé le principe de vigilance environnementale. C'est très intéressant. Ça veut dire que le principe de vigilance, ça concerne les institutions publiques comme les institutions privées. Ce qui est très important aussi, c'est que quand le Conseil constitutionnel dit « toute personne a le devoir, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages, etc. », il va juger que c'est aussi bien les personnes publiques que les personnes privées. Donc là, le Conseil constitutionnel est le couronnement du droit de l'environnement, mais il n'a pas rempli encore ses promesses. Voilà ce que j'en pense dans l'état actuel des choses. Ce qui est très rassurant, c'est que ce droit constitutionnel à l'environnement se promène quand même dans toute la planète. Ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions des autres juridictions supérieures. Parce que vous avez le vrai sujet du droit de l'environnement, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le droit national. Vous savez très bien l'affaire de Tchernobyl, la frontière, etc. Et j'étais témoin de cette situation-là. Et donc, comme disait le doyen Védel, le droit de l'environnement, c'est le droit du patrimoine commun de l'humanité. Alors, notre attention sur l'évolution du caractère supérieur du droit de l'environnement doit se porter sur la jurisprudence de la Cour européenne, qui a rendu des arrêts formidables sur le principe de précaution, l'affaire Tintar contre Roumanie. Et puis après ça, la Cour internationale de justice, qui a rendu une magnifique décision sur le dommage écologique dans une affaire qui concernait l'Amérique du Sud. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, nous avons des éléments de la Constitution, mais c'est toujours en évolution et par des comparaisons avec les autres jurisprudences, quand on peut évoluer. Merci de votre attention. Il nous restera encore deux rendez-vous extrêmement importants sur lesquels j'attire votre attention. notamment sur les développements du droit de l'environnement et l'économie. Et puis après ça, la belle question de la justice climatique, qui est une question préoccupante. Merci et à très bientôt.
Ce troisième épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blumberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Alban Lejeune. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.